Saint-Jodard, 31-10-84.
La dernière fois, nous avons essayé de regarder comment la philosophie première, ce qu'on appelle métaphysique, aboutit nécessairement à se poser le problème: existe-t-il un être premier au-delà de ce qu'est l'homme? Existe-t-il une réalité première que les traditions appellent Dieu? Alors, ça c'est, je dirais, la grande interrogation au point de vue philosophique, où le philosophe est obligé de revenir sur l'être le plus parfait qu'il expérimente, l'homme, et se demander si l'homme est adéquat à l'être. Si au contraire, à partir de l'analyse qu'il fait de l'homme, il peut découvrir, je ne dis pas un surhomme, mais un être premier, puisque c'est dans la lumière de l'être qu'il regarde l'homme. Et c'est là qu'on voit très bien que s'il n'y a pas une philosophie première, une métaphysique de l'être, l'homme ne pourra pas découvrir l'être premier. Il poserait simplement un surhomme. La position de Nietzsche, à ce point de vue, l'être est significative. Et elle est très intéressante. Alors un surhomme immanent à l'homme. Comment l'homme demande d'être dépassé. Même Nietzsche comprend que l'homme demande d'être dépassé par le surhomme. Et nous allons vers le surhomme. Nous allons vers quelque chose qui est plus grand que l'homme tel qu'il se voit. Et nous allons vers le surhomme parce que l'homme est capable de la créativité. Et donc dans sa créativité la plus forte, il doit se recréer lui-même. Une espèce de créativité au carré qui serait que l'homme doit arriver à se dépasser lui-même. Mais comme Nietzsche refuse la métaphysique, l'être est un mensonge, et la métaphysique est un mensonge, puisque l'être ne peut pas exister en dehors du sensible, c'est l'homme qui doit être. Et l'homme dans sa créativité, l'homme dans sa volonté de puissance qui doit dominer tout, il ne peut pas le dépasser. Alors ce serait très intéressant de regarder là toutes les idéologies athées, pour regarder les obstacles mis en lumière, les murs que chacune de ces idéologies athées met en présence, pour montrer qu'il n'y a pas de dépassement. Ça, je crois que ça nous aiderait beaucoup au point de vue philosophique. Il faut se servir des oppositions pour mieux comprendre comment doit se faire ce dépassement. Parce que c'est un très grand moment pour l'intelligence humaine. C'est peut-être un des plus grands moments de l'intelligence humaine. Vous voyez, si l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» est un moment où l'intelligence humaine commence à se dépasser par rapport au sensible, par rapport au lien vis-à-vis de nos sensations, quand l'intelligence humaine se pose la question « existe-t-il un être supérieur à l'homme ?» c'est aussi une très grande interrogation. Et c'est une interrogation qui est encore plus importante d'une certaine manière, qui est seconde. Je ne peux pas me poser cette question et y répondre sans avoir compris la première interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Puisque c'est par l'être que je peux dépasser l'homme. Ce n'est pas par l'homme, ce n'est pas par les diverses catégories. Les 10 catégories me rendent, sont incapables de faire ce dépassement. Dieu n'est pas une surqualité, Dieu n'est pas une sur-substance. Même la substance, vous voyez, la substance catégoriale, ce n'est que par l'être. C'est le seul petit sentier. Ce n'est que par l'être que l'homme peut se dépasser. Ça, c'est intéressant de se poser la question, hein. Est-ce que je peux arriver à me dépasser par le point de vue de la vie? Est-ce que Dieu est le survivant? Est-ce que le Dieu est le suramour? Est-ce que Dieu est le surpensée? La suraction? Et ainsi de suite, hein. Parce qu'au fond, c'est la question du surhomme, c'est la surcréativité. Ce n'est que par l'être. Et alors, il est intéressant à noter que les sept grandes formes d'athéisme, d'idéologie athée, montrent les impossibilités de dépassement pour demeurer dans l'immanence. Que le propre des idéologies athées, c'est de demeurer dans l'immanence. C'est l'homme qui se regarde et qui se complaît dans l'homme. Le chiffre de la bête, 6, 6, 6. Ça, c'est à noter au point de vue théologique, hein, parce que philosophiquement, le chiffre de la bête ne peut être regardé que dans une perspective symbolique, et même une espèce de mythe. L'Apocalypse, pour le philosophe, c'est un mythe extraordinaire. C'est le plus beau des mythes qui était écrit. Et c'est la plus grande grandeur du mythe qui était écrit, ce qu'on représente l'Apocalypse. Et alors le chiffre de l'homme, vous voyez, 666, est quelque chose de particulièrement imposant. Pour le philosophe, on est là en face du mythe, dans toute sa force. Si je supprime l'être premier, il y a les retombées atomiques. Hein? Et la retombée atomique au niveau ontologique, c'est 6, 6, 6. L'homme qui se complaît en lui-même et l'homme qui dit « il n'y a que l'homme ». Et l'homme seul peut sauver l'homme. Alors ça, c'est très très fort, c'est très puissant. Alors il faut utiliser ça au point de vue philosophique. Comment les idéologies athées mutilent l'homme? À la place de le permettre de se dépasser, mutilent l'homme. Et à partir de là, le philosophe doit découvrir les nouvelles voies d'accès à l'affirmation de la découverte de l'être premier. Nous pouvons nous servir de ce que dit saint Thomas. Je dis bien nous servir de ce que dit saint Thomas. Être suffisamment intelligent pour comprendre ce que saint Thomas veut dire. Mais on ne peut pas répéter les cinq voies d'accès de saint Thomas. Et c'est très simple à comprendre. Parce que les cinq voies d'accès de saint Thomas, c'est une position théologique critique. Je dis ça, c'est parce qu'on les a répétées, les cinq voies de saint Thomas. C'est tellement imposant, les cinq voies de saint Thomas. Alors, quand on est en face des cinq voies de saint Thomas, vous comprenez très bien, on est saisi par ça. Et on est saisi par ce que représente cette puissance de synthèse de saint Thomas, qui fait une synthèse extraordinaire, merveilleuse, de voir que par là, on peut se servir de toutes les traditions pour arriver, tradition religieuse, tradition philosophique, pour arriver à affirmer l'existence d'un être premier. On ne peut pas. Et les diverses formes d'athéisme, des idéologies athées, doivent purifier notre regard philosophique pour voir comment le philosophe doit découvrir progressivement l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Alors, je ne le vois pas maintenant, hein. Ça, c'est présupposer le travail de toute une année, hein. Parce qu'on ne peut pas le faire chaque fois, tout reprendre. Il faut essayer, après la découverte de l'existence d'un être premier, il est nécessaire de poser un être nécessaire, absolument nécessaire. Il est nécessaire de poser un acte pur. au-delà de toute contingence. Il est nécessaire de poser un être qui ne soit que vie dans son être. Il est nécessaire de poser un être qui ne soit qu'amour dans son être. Il est nécessaire de poser un être qui ne soit que contemplation dans son être. Et grande conclusion, une fois que j'aboutis à ces conclusions, il y a immédiatement le désir de mieux connaître cet être premier. Là, c'est impossible autrement. Parce que je le pose justement comme un au-delà. Si je le pose comme un au-delà, je dois me poser la question, est-ce que l'intelligence peut dire quelque chose d'intelligent vis-à-vis de cet être premier ? Et c'est là où on peut dire que l'intelligence va contempler cet être premier. Première contemplation, c'est-à-dire mettre en pleine lumière. Mais c'est une contemplation métaphysique, hein, une contemplation assez particulière. Il y a une contemplation métaphysique, parce que dès que je découvre l'être premier, la philosophie première prend, je dirais, ce statut de sagesse. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Elle est d'abord dans cette attitude contemplative à l'égard de l'être premier. Que puis-je dire de cet être premier ? Alors la première chose, c'est de regarder que cet être premier est absolument simple. C'est le fruit d'une contemplation. Hein ? C'est-à-dire, je nie de l'être premier toutes les compositions. Et cette simplicité est une perfection. D'habitude, il y a une opposition entre simplicité et perfection. Dans toutes les spiritualités, vous avez deux spiritualités, une spiritualité de la simplicité, une spiritualité de la perfection. Au terme, ça s'unit dans la vision béatifique. Mais tant qu'on est sur la terre, les spiritualités de la simplicité et la spiritualité de la perfection, c'est distinct. La spiritualité du boulot et du cèdre, c'est tout à fait différent. Bien évident. Le boulot, vous savez bien, hein, il pousse tout droit, il n'y a plus qu'à, au terme, quelques petites feuilles. Hein. Une forêt de boulot, c'est extraordinaire. Et les cèdres, c'est différent. Eh bien, pour chacun d'entre nous, nous savons très bien qu'il y a une option. Et je prends spiritualité au sens le plus large, pas nécessairement une spiritualité surnaturelle, je prends la spiritualité au niveau humain. Il y a des philosophies de la simplicité, si j'oserais dire, et des philosophies de la perfection. Là, on trouverait bien deux voies d'accès. Et c'est très vrai, il y a des philosophies qui insistent plus sur la purification de l'intelligence, et d'autres qui veulent tout intégrer. Il y a des politiques de la simplicité et des politiques de la perfection. Je ne sais pas laquelle est de droite, laquelle est de gauche, hein, mais néanmoins, il y a des politiques de la simplicité et des politiques de la perfection. Des politiques qui veulent tout intégrer et des politiques qui sont pour la simplicité. Je ne sais pas s'il y a l'économie de la simplicité et l'économie de la perfection. Il faudrait se poser la question. Les économies de purification, les économies sévères de la purification, et puis les économies au contraire qui disent plus on donne, plus ça rapporte, hein. Ça dépend. On est obligé d'opter, quand il s'agit de l'être premier, quand il s'agit de Dieu, simplicité et perfection vont ensemble. D'où je vois ce qu'est la bonté. Et immédiatement après, je vois que Dieu est sans frontières. Il n'y a plus de frontières. Avant les médecins sans frontières, il y a Dieu sans frontières. Hein, parce que c'est Dieu sans frontières. Il est au-delà de toute frontière. Parce qu'il est infini. Ça, c'est une des choses les plus étonnantes. Il est infini dans son être. Dieu ne peut être rival de personne. C'est très très important ça. Parce que tous les athéismes, je crois, pensent que Dieu est rival de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils veulent le supprimer. Alors, il faut là répondre à toutes ces formes d'athéisme, montrer que Dieu n'est pas rival. Il ne peut pas l'être. Il est infini dans son être. Un être qui est infini est un être qui ne peut pas s'opposer à un autre. Dieu ne s'oppose à personne. Il est infini. Et parce qu'il est infini, il est éternel, au-delà du temps. Et parce qu'il est infini, il est au-delà du lieu. Et parce qu'il est infini, il est un. Vous voyez, il y a toute cette grande contemplation du mystère de Dieu, au niveau philosophique, au niveau de notre intelligence. Notre intelligence a besoin de contempler Dieu. Comme intelligence, il n'y a que là où elle respire pleinement. Parce que là, elle se trouve devant la lumière. L'intelligence peut aller plus loin encore, essayer de comprendre comment cet être est le vivant. Dans sa contemplation et dans son amour. Ensuite, l'intelligence se pose la question, si Dieu n'est pas rival, cependant l'homme est autre que Dieu. Et il est tout autre que Dieu. Alors, on va se demander quel est le cordon ombilical qui demeure entre l'homme et Dieu. Ou est-ce que de fait, c'est complètement coupé. Ça ne peut pas être complètement coupé, puisque mon intelligence a découvert l'existence d'un être premier. Mais je l'ai découvert du côté de l'intelligence. Maintenant, je vais me poser la question au niveau existentiel ou existential, hein, si je suis heideggerien. Alors, quel est le cordon ombilical qui existe entre l'être premier et moi-même ? Est-ce qu'il y a un lien ? Ça, c'est une question très importante, vous voyez. Après la question, existe-t-il un être premier que nous appelons Dieu ? La grande seconde question, entre deux, il y a toute une zone de contemplation et de silence. On essaie de découvrir ce qu'est l'être premier, sa manière d'exister. Ici, je vais renverser le rapport. Dieu n'est rival de personne. Mais est-ce que la créature, pas la créature, l'homme, c'est toujours l'homme, je ne peux pas encore parler de créature, l'homme, dans son existence, dans son existé, quel est son lien avec cet existé premier ? Et ce problème, qui se pose au point de vue philosophique, correspond à ce que toutes les traditions religieuses appellent le problème de la création. Le mot « création » n'est pas un terme philosophique. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont les traditions religieuses qui nous le donnent. Et donc les traditions religieuses me posent le problème de la création. Là, il faut relever tous les mythes des traditions religieuses sur la création. C'est un petit problème très intéressant. Et on va voir comment, vous savez bien, le mythe de la création selon les traditions colombiennes, c'est le plus ancien que nous avons. Et ce mythe est merveilleux. Ce mythe est merveilleux, il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est quand même... Surtout quand on compare avec les traditions religieuses telles qu'elles nous sont données dans l'Écriture. Au commencement était le soleil et le canard. Alors ça, vous le retenez. Alors, et alors le soleil interroge le canard en lui disant « Il n'est pas bon pour toi d'être seul. » Et c'est évident, pour le canard, c'est pas bon d'être seul. Avec le soleil. Comme tu as des palmes à tes pattes, plonge dans l'eau. Vous voyez, il n'était pas seul, il y avait l'eau. Évidemment, un canard, il ne peut pas vivre sans eau. Plonge tes plonge dans l'eau et avec tes palmes tu vas ramener de la terre, de la boue. Et à partir de là, je créerai l'homme. C'est extraordinaire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, hein? Quelle est la nostalgie profonde que porte le canard? La plus profonde, c'est ce nom-là. Comment se fait-il que avant l'homme, vous pensez le canard et le soleil? Le soleil, on comprend. Parce que tout homme naît du soleil et de l'homme. Alors ça, je comprends très bien le soleil. On comprend. Mais le canard, c'est très cru. C'est très très cru. Ça, c'est pas dit. Un jour, on découvrira peut-être qu'il y a là un lien très curieux. Et ce qui est bon, c'est de sentir que la parole « il n'est pas bon pour toi d'être seul hein. ». C'est peut-être pour ça que le canard est là. Hein. Il n'est pas bon pour toi d'être seul. Parce qu'un homme seul, c'est un canard. Hein. C'est peut-être ça que ça veut dire. C'est peut-être ça que ça veut comprendre. S'il est seul, il est canard. C'est-à-dire qu'il... Il est replié sur lui. Je ne sais pas si le canard est un animal particulièrement replié sur soi. Vous pourrez les élever pour voir. Hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez toutes les grandes traditions religieuses qui parlent de la création. Nous devons nous demander, au point de vue philosophique, au point de vue sagesse théologique, sagesse philosophique, nous demander si le mythe de la création je peux saisir quelque chose d'intelligible dans ce mythe. Autrement dit, si ce mythe est un mythe purement imaginaire, ou si ce mythe correspond à une réalité. Le philosophe doit, à travers tous les mythes religieux, se poser la question. C'est pour ça qu'il doit se poser la question, est-ce que le canard, ça représente quelque chose de purement imaginaire pour la colonie. Je me demandais. L'île aux canards, avant. Et au Canada, il y a l'île aux oiseaux. C'est très curieux, c'est du reste très très beau. Il y a l'île aux oiseaux. Il n'y a que des oiseaux. Une île, oui, il n'y a que ça. Absolument, il y a... Et ils viennent tous là, parce que là, ils se trouvent entre eux. C'est la cité des oiseaux. C'est très très beau. On y va tout près, on fait le tour comme ça. C'est très intéressant de faire ça. Alors, évidemment, est-ce qu'il y avait ça en Colombie? Qui faisait qu'il y avait l'île aux canards. C'est possible, hein, c'est très possible, et que c'est laissé comme une espèce de nostalgie première. L'oiseau est avant l'homme, n'est-ce pas? C'est sûr, l'oiseau est avant l'homme, il y a quelque chose de premier dans l'oiseau. Alors, y a-t-il quelque chose de réel? Dans tous les mythes religieux, on doit se poser la question. Alors ici, je me pose la question, dans le mythe de la création, y a-t-il quelque chose de réel? Pour pouvoir répondre à ça, il faut chercher quelle est la relation qui existe entre l'homme, c'est-à-dire moi qui existe, toi, et puis l'existé premier, c'est-à-dire l'existé premier, c'est l'être premier, absolument sain, absolument parfait, le vivant, contemplatif, qui est vérité et amour. Voilà tout ce que je puis dire, c'est vérité et amour. Alors, quelle relation existe-t-il entre les deux? J'ai dit tout à l'heure, cette existé, il est infini. Donc, ce n'est pas lui qui met une barrière. L'homme, il est limité. Il est limité dans son existence. Mais je dois me poser la question, donc, quel est le lien qui existe entre cet être qui est moi, cet être que j'expérimente, qui est limité dans son existé, qui est limité dans sa vie, qui est limité dans tout ce qu'il est, et cependant, qui a une soif d'infini. Une possibilité pour lui, du côté de son intelligence et du côté de sa volonté, d'être ouvert à l'infini. C'est juste pour ça qu'il peut poser que Dieu est infini. Et qu'il peut poser que l'être premier est infini. S'il n'y avait pas en lui cette ouverture vers l'infini, il ne pourrait pas dire ça. Alors, on doit se poser. Et c'est la réponse à cette question qui me fait comprendre ce que c'est que le livre de la création, c'est-à-dire que l'homme est une créature totalement dépendante du Créateur dans son existence. Et c'est à partir de ce moment que je découvre que mon exister est un exister causé. C'est par la participation que je découvre la causalité. Ah, ça, c'est un moment très important au point de vue philosophique et au point de vue de la sagesse. Par la participation que je découvre la causalité. Pourquoi ? J'existe. Dieu existe. Ça, je peux le dire, philosophiquement. J'existe, Dieu existe. J'existe d'une manière totalement différente que Dieu. Et quand je dis totalement différente de Dieu, ça ne veut pas dire que je ne peux rien dire de cet exister, puisque je l'ai contemplé. Je l'ai posé, je l'ai contemplé. Donc je peux en dire quelque chose. Mais cependant, j'existe d'une manière totalement différente. Allô, allô, autre, autre. Et cependant, il y a quelque chose qui me relie à cet exister. Quelque chose qui me relie à cet exister. Parce que je suis limité dans mon exister. Je vais dire que mon exister est participé comparativement à l'exister premier qui est lui. Lui n'est pas limité. Le mien est limité. C'est par la limite que je passe du côté de la participation. Et par la participation, je découvre la causalité. Je n'ai pas le temps de voir ça, mais je vous indique simplement les trois moments nécessaires pour comprendre et découvrir que l'être premier est cause absolue de mon exister. Alors là, évidemment, il y a une très grande purification à faire par rapport à ce que nous appelons causalité. Et c'est là où, si nous avons un concept de causalité qui est lié à la loi, c'est-à-dire une causalité efficiente qui se ramène tout simplement à un rapport de nécessité entre antécédents et conséquents, à la manière de Kant, je ne peux plus dire que Dieu est cause. Ça, il faut le savoir. Hein, il faut le comprendre que dans notre monde d'aujourd'hui, dire que Dieu est cause, ça met en colère tous les kantiens. Donc faites grande attention quand vous l'affirmez. Il faut tout de suite dire, je prends le mot cause d'une façon totalement différente que Kant. Et j'essaie de découvrir la causalité dans le sens ancien des Grecs. Donc je remonte au-delà d'Occam, puisque Occam est le premier avoir regardé la causalité uniquement au niveau du conditionnement. Et j'essaie de découvrir la causalité comme un principe dans l'ordre de l'être. Et c'est parce que je découvre la causalité comme un principe dans l'ordre de l'être et non pas seulement comme une priorité dans l'ordre du conditionnement que je puis affirmer que l'être premier, Dieu, est cause de l'essai. Principe de l'essai. Et que moi-même, je suis totalement dépendant à l'égard de Dieu dans mon essai. Voilà ce que le philosophe peut dans un regard de sagesse. Dès que je découvre Dieu comme créateur, immédiatement, je découvre, dans ce troisième moment, si vous voulez, je découvre que l'homme, en tant que créature, doit reconnaître cette totale dépendance à l'égard de Dieu. Et reconnaître cette totale dépendance à l'égard de Dieu réclame une attitude affective, quand je prends affective au sens volontaire, une affectivité spirituelle, qui fait que l'homme se considère comme une créature qui reconnaît sa dépendance en adorant. C'est ici où apparaît l'adoration. Et je crois que c'est ici qu'on peut dire que nous entrons dans un regard de sagesse. Je vais aller jusque-là pour découvrir ce regard de sagesse. Vous voyez ce double mouvement, c'est très important à saisir ça. Et c'est pas commode, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement de sagesse? Nous avons dit que nous regarderions le jugement de sagesse. Philosophiquement, ce n'est pas commode du tout à vraiment établir. Alors, je crois que le jugement de sagesse implique deux aspects qu'il ne faut pas séparer, qu'il faut seulement distinguer. Il y a un premier moment, je dirais celui-ci, hein, premier moment, où l'on découvre la transcendance de l'être premier. L'être premier est tout autre. C'est la transcendance. Je découvre l'être premier dans toutes ses manières particulières d'être. Il est absolument simple, il est parfait, il est infini, toutes les grandes qualités. Ensuite, me posant la question de la relation qui existe entre l'être premier et moi-même, à l'intérieur de cette transcendance, je me pose la question, y a-t-il une certaine immanence? Y a-t-il un certain lien? Y a-t-il une certaine relation? À l'intérieur de cette transcendance. Et cette relation, elle se fonde sur la création. C'est parce que tout ce que je suis dans mon être provient de Dieu que, au-delà de la transcendance ou à l'intérieur de la transcendance, il y a un certain lien. Donc, une certaine immanence. Autrement dit, je découvre à ce moment-là que Dieu, me dépassant complètement, dans son être, sa vie, son intelligence. Si Dieu décide de créer, son acte créateur ne peut être qu'un acte tout à fait libre. Dieu ne peut pas être obligé de créer. Il ne serait plus Dieu. Ce serait contraire à sa perfection. Ce serait contraire à son infini. Donc, il ne peut créer que dans un acte de totale liberté. Et dans un acte de sagesse. Si Dieu décide de créer, il y a un lien à l'intérieur de la transcendance qui est un lien d'exister. Et, j'allais dire, la transcendance du côté de l'intelligibilité, on peut dire ça, je crois. La transcendance du côté de l'intelligibilité, je découvre Dieu comme tout autre, et dans l'immanence, l'exister. Dans l'exister, un certain lien. Il y a un lien. Je suis lié à Dieu dans mon exister. Ce lien m'échappe, hein. Je n'ai pas l'expérience de ce lien. Si j'avais l'expérience de ma dépendance existentielle à l'égard de Dieu, tout être reconnaîtrait l'existence de Dieu. Tout être intelligent. Alors il n'y aurait que l'insensé qui dirait dans son cœur, Dieu n'existe pas. Il n'y aurait que l'incipient. N'oubliez pas que c'est dit dans la Révélation, ça. Et donc c'est dit dans une perspective d'un lien où on a la foi en l'égard de Dieu. Alors, le croyant peut dire ça, le croyant a le droit de dire ça, mais pas le philosophe. Le philosophe n'a pas le droit de dire que l'incipient vit dans son cœur. Il dit simplement que l'homme, à un moment donné, n'a pas su découvrir l'existence de Dieu, il s'est arrêté. Ça ne veut pas dire qu'il est incipient. faut faire attention. Il ne peut le dire qu'en tant que croyant, en s'appuyant sur la révélation de Dieu. Et donc c'est Dieu qui le dit. C'est pas l'homme qui le dit. Parce que tout ce que le croyant dit, c'est Dieu qui le dit à travers l'homme. Mais c'est pas l'homme, hein. Autrement vous attribuez un jugement, vous n'avez pas le droit de dire. C'est très important. Et donc c'est Dieu qui le dit, il sait bien. In corde suo. C'est dans son cœur qu'il dit ça. In corde suo, il dit, Dieu n'existe pas. Je comprends qu'il y a donc un lien existentiel, existentiel, dans l'ordre de l'existence, entre l'homme, créature, et Dieu. Et ce lien existentiel, je le vis dans une affectivité d'amour. Une affectivité volontaire, dans un acte libre. Librement, je rejoins la liberté du Créateur. L'adoration est un baiser divin entre l'acte libre de Dieu et l'acte libre du Créateur, qui se choisissent, qui s'aiment. On reconnaît l'amour de Dieu pour nous. Et on se lie à Dieu. Ça qui est si grand dans l'adoration. Elle se fait dans l'obscurité, dans la transcendance absolue. Je sais très bien que je ne connais pas Dieu. Mais il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Puisqu'il est mon créateur. Et en tant qu'il est créateur, il est ma source. En tant que cause, il est source. Et donc il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Dans mon être, dans mon intelligence, dans ma pensée et dans ma capacité d'aimer. Et je rejoins librement l'être de Dieu. Il y a donc un lien affectif, volontaire, qui repose sur l'exister participé, qui me relie à la transcendance de Dieu. Et transcendance et immanence. Deux sont présents. Eh bien, je crois que c'est cela qui va nous permettre de comprendre le statut du jugement de sagesse. Le jugement de sagesse se fait à l'intérieur de cette transcendance et de cette immanence. S'il n'y avait pas les deux, il n'y aurait pas de jugement de sagesse. Et nous verrons ensuite comment développer ce jugement de sagesse. Mais il fallait d'abord le situer, autrement on ne comprendrait rien du tout. Après, il faut essayer de saisir ce moment très particulier et très important de la découverte de notre intelligence et de notre cœur. Et c'est l'intelligence qui affirme la transcendance et le cœur qui affirme l'immanence. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment l'intelligence qui affirme la transcendance. Le cœur ne peut pas affirmer la transcendance. Le cœur affirme toujours le lien. Le cœur affirme toujours l'immanence. Et il y a une immanence existentielle, vous voyez, qui permet une immanence affective. Et qui permet de dire, Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Tout en étant celui qui transcende complètement mon intelligence. Et vous voyez là combien les deux sont nécessaires. Parce que si vous ne regardez que le cœur, au bout d'un certain temps, vous aurez une philosophie du cœur qui sera dans la pure immanence et vous ne respecterez plus la transcendance de Dieu. Et si vous n'avez qu'une philosophie de l'intelligence sans le cœur, vous direz Dieu est tellement au-dessus de tout, est-ce qu'il s'occupe de moi ? Et vous tomberez dans l'angoisse. Il faut maintenir les deux. Et là, je vois bien ce que c'est que le jugement de sagesse. Il faut maintenir les deux. Il faut maintenir cette fine pointe de l'intelligence qui va aller le plus loin possible dans le regard sur l'être premier et à l'intérieur de cette transcendance, et je dis bien à l'intérieur de cette transcendance, découvrir ce côté affectif de l'adoration et cette immanence du cœur. La transcendance peut porter l'immanence. L'immanence ne porte pas la transcendance. Si j'affirme en premier lieu l'immanence, je ne pourrai jamais découvrir la transcendance. Ah, c'est aussi très mystérieux. Vous voyez, au fond, c'est le désir. Et Hegel voudrait que par l'immanence, on redécouvre la transcendance. C'est le désir foncier de Hegel. C'est le désir foncier de tout ontologisme. Tout l'ontologisme, depuis Saint Anselme. Et nous le verrons au séminaire. Hein. Tout l'ontologisme, depuis Saint Anselme, en passant par tous les ontologies, parce que je ne considère pas que Saint-Augustin est un ontologie, c'est autre chose. Saint-Anselme, il y a déjà le point de départ. Il ne l'est pas, hein, faut pas attribuer à Saint-Anselme l'ontologie, c'est très différent. Mais, j'allais dire, il pose la pierre, sans trop le savoir, pour un développement de l'ontologie. Alors, tout l'ontologie, c'est de vouloir, par l'immanence de la connaissance, de l'intentionnalité, découvrir la transcendance. Alors, l'immanence ne peut pas porter la transcendance. C'est impossible. La transcendance, elle se découvre elle-même. Et pour elle-même. Et en la découvrant bien, on découvre l'immanence. Parce que cette transcendance est source. Si cette transcendance n'était pas source, si cette transcendance était uniquement une transcendance intellectuelle sans être source, c'est une transcendance dans l'ordre de l'être, c'est une transcendance dans l'ordre du bien, c'est une transcendance dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la vie. Alors si cette transcendance est source, à partir de cette transcendance, je peux découvrir une immanence affective et humaine. Je ne peux pas avoir une autre démarche. Sauf, comprenons bien, alors là, c'est pour le théologien, sauf au plan surnaturel. Au plan surnaturel, je puis dire que l'immanence est avant la transcendance. Et je peux dire qu'au plan surnaturel, l'immanence porte la transcendance. Et ça, c'est le propre du mystère de la grâce. C'est le propre du mystère de la foi, de l'espérance et de la charité. Et c'est pour cela, vous voyez, que dans l'ontologisme qui naît de la théologie, il ne faut pas l'oublier, Saint Anselme est un croyant. Et quand il pose sa pierre, il la pose à l'intérieur de sa foi. Et au bout d'un certain temps, il oublie. Et il veut uniquement trouver l'intelligence. Et ça, c'est l'ontologisme. L'histoire de l'ontologisme. Et l'histoire de l'ontologisme a une grande, grande importance pour nous. Hein, parce que je crois qu'on ne peut rien comprendre à l'athéisme et à l'idéologie athée de notre monde d'aujourd'hui si on ne regarde pas l'ontologisme. Je crois que l'idéologie athée, c'est une réaction violente contre l'ontologisme. Et en ce sens-là, ils ont raison. Donc il y a quelque chose de vrai dans l'idéologie athée. C'est la réaction contre l'ontologisme. C'est de vouloir, à partir de l'immanence, rejoindre le transcendant. Et dans toutes les idéologies athées, il y a ce refus qui est sain, S-A-I-N, pas avec le T, mais qui est sain, qui est bon. C'est une espèce de réaction violente contre un mélange du surnaturel et du naturel. Parce que dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre de la grâce, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. La foi nous fait vivre la vie éternelle. On ne dit pas que la foi nous fait vivre l'être éternel. On dit que la foi nous fait vivre la vie éternelle. Dans l'ordre surnaturel, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée. Et la vie implique d'abord une immanence. dans l'ordre surnaturel, nous vivons la même vie que Dieu. Pour moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez l'immanence merveilleuse, point de vue profond. Donc la vie surnaturelle nous fait vivre dans une immanence divine. Et cette immanence divine, parce qu'elle est divine, implique une transcendance. Alors si vous laïcisez le mystère de la foi, vous tombez dans l'ontologisme. Vous voyez Malebranche, c'est un curé. Intelligent, mais pas assez. Il aurait dû mieux saisir que sa vie d'oraison et sa vie de prière n'étaient pas sa philosophie. Alors, confondant les deux, on tombe dans l'ontologie. Vous voyez, mais c'est ça que je veux faire comprendre. Donc, nous voyons que si nous regardons le jugement de sagesse, le jugement de sagesse va toujours impliquer cet aspect de la transcendance de l'être premier et l'immanence de l'être de la vie divine, de l'amour de Dieu en moi et de cette adoration. Dans tout jugement de sagesse, vous aurez l'intelligence et l'affectivité.